2 Pierre, chapitre 2, verset 1. La semaine passée, on a commencé à regarder ce chapitre-là ensemble. Et on a intitulé ça, intitulé cela, la connaissance protège. On avait parlé que, qu'est-ce qui fait que des fois on se fait pogner? C'est parce qu'on manquait de connaissance. Si j'avais meilleure connaissance en mécanique, je ne me ferais pas pogner quand c'est un char qui est fini. Si j'ai meilleure connaissance dans la bourse, que je veux même, je ne me ferais pas pogner. Comment les gens se sont fait pogner? Ils ont acheté des affaires à la bourse, puis ça a fait faillite, puis ils ont perdu des argent. Manque de connaissance. Et l'apôtre Pierre, ici, sait que dans l'Église, on a parlé dans les semaines qui ont précédé, il y a des faux prophètes, il y a des docteurs. Donc, il veut leur donner de la connaissance afin de pouvoir les protéger contre ces gens-là. J'ai été toujours surpris que dans les banques, comment est-ce qu'ils font pour prévenir que les gens se fassent savoir avec des faux billets. Ils disaient que jamais il leur manque des faux. Il leur manque juste du vrai. Ils disent, quand vous allez avoir un faux, vous allez le reconnaître. Donc, mais il leur montrait le vrai. Comment reconnaître un vrai? Okay. Il leur donnait de la connaissance, puis quand, s'il n'y avait pas telle affaire sur le billet, c'est ton faux, s'il n'y avait pas telle affaire, c'est ton faux. Okay. Mais il leur montrait juste des vrais, puis si c'est ça, c'est pas là, c'est un faux. Donc, il fallait qu'ils apprennent à reconnaître le vrai pour discerner le faux. Donc, on va continuer cette étude-là, on va réviser un petit peu, puis on va le continuer tout à l'heure. Jésus a dit, « Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissent leurs pères à l'égard des faux prophètes. » Donc, les faux prophètes, ce n'est pas des gens qui sont détestables. Parce que les gens disent du bien d'eux. Donc, c'est des gens, souvent, qui sont reconnus comme étant des gens de bien. Des gens qui sont... Les gens mauvais ont tendance à se méfier de ça. Hein? Les gens mauvais ont tendance à s'éloigner. Mais le trompeur, c'est que ça semble être des bonnes personnes qui vont faire souvent le plus de dommages. Prenez un gars comme Gandhi, qui a gagné le prix Nobel de la paix, ce gars-là. Donc, c'est pas un deux de pique, là. C'était pas un gars qui était méchant. Dans sa société, dans son monde à lui, c'est un gars qui est reconnu comme être doux, comme un homme qui aime le monde, qui est charitable. Donc, c'est des gens bien, tu vois. Des gens bien, tu vois. Mais ça n'empêche pas qu'il pourrait être des faux prophètes. C'est-à-dire qu'il enseigne des choses qui ne vont pas dans la même direction que Dieu. Et les gens du dehors sont complètement à la merci parce qu'ils n'ont aucune connaissance de la vérité. C'est pour ça que les grands mouvements, les deux grands mouvements du monde qui ont à peu près la moitié de la population du globe dans leur mouvement, ces gens-là qui les suivent n'ont aucune connaissance de la vérité biblique. Donc, ils se laissent entraîner. La moitié, musulmans, catholiques, la moitié du globe, ça. Hein? C'est 1 milliard, l'autre 1 milliard 400 millions, l'autre 1 milliard 300 millions. Ça fait quasiment 3 millions, puis on est à peu près 6 millions quelque chose. 6 milliards quelque chose. Quasiment la moitié de la planète, nous, on s'en dit deux mouvements. Mais pourtant, ces gens-là n'enseignent pas la vérité par rapport à Jésus-Christ pour celui. Et donc, c'est. Nous autres, à l'intérieur, on est, je crois, en partant, plus alertes. D'abord, on sait que ça existe. Eh bien, effectivement, quand je suis allé te chercher, j'étais avec la sœur d'André. Et elle a dit, ah, c'est bien, on est allé à une église internationale. Elle a dit une église interdéminationnelle. Puis elle dit, c'est tombeau, tout le monde ensemble, toutes les religions ensemble. Pour elle, elle n'a pas de la connaissance de la vérité, donc tous les mouvements religieux ensemble, c'est beau. Une belle salade. Parce qu'on n'a pas la connaissance de la vérité. Et donc, pour nous autres, à l'intérieur de l'Église, on devrait être plus à l'affût et être plus dur à tromper, parce qu'on a plus de connaissances. Paul a dit à Timothée ceci, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc, mais Paul ici, quand il parle à Timothée, il ne parle pas à Timothée d'enseigner à des inconvertis. Parce que Timothée est dans l'Église comme enseignant. Donc, il dit dans l'Église, il y a des dangers que les gens, finalement, vont se nommer des personnes qui vont leur enseigner ce qu'ils veulent entendre en québécois. Et ce que vous voyez dans les églises, dans l'histoire d'une église, une église baptiste ou une église, peu importe, ça ne dure pas longtemps, 150 ans. Tranquillement, l'église finit par se nommer des gens qui vont enseigner ce qu'ils veulent entendre. Parce que c'est la nature humaine qui est dans cette direction-là. Donc si, c'est pas que Paul dit à Timothée, prêche-toi la vérité, pour au moins, pendant que toi t'es là, l'église va rester dans la vérité. Espérant que, il va dire plus loin, ce que tu as reçu, donne-le à un autre, qui lui va faire la même chose, qui va l'enseigner à d'autres après. Donc, c'est la responsabilité de l'église de donner la vérité à l'autre génération qui est après. On ne peut pas aller plus loin. C'est notre responsabilité de transmettre à l'autre génération la vérité. Si tout le monde fait ça, automatiquement, la vérité va toujours rester. Mais vous savez comment ça se passe? On s'en va un petit peu. Finalement, on est au coup de la couche. Ça se fait comme ça. Et on a vu la semaine passée que pour les reconnaître, parce que là, on part au verset, chapitre 2, verset 1, il dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Donc, Paul et Pierre ici s'adressent à l'Église. Il dit, il va venir parmi vous des faux docteurs. C'est ce que Paul disait dans les Actes des Apôtres. Il dit, il va rentrer des loups dans l'Église, il va y avoir des faux prophètes dans l'Église.
Il dit des faux enseignants.
Oui, c'est la même chose. Le mot docteur, c'est pas médecin.
Non, c'est ça.
C'est le mot, dans le grec, c'est le mot didaskalos qui veut dire enseignant. Ouais. Non, de faux enseignants. C'est ça que toi, le mot enseignant?
Enseignant,
oui. Ouais, c'est le mot enseignant. Donc, il dit que comment les reconnaître, ces gens-là? Parce qu'ils vont venir dans l'Église, vous deviez les reconnaître et les mettre dehors avant qu'ils fassent du grabuge dans l'Église ou afin qu'ils détournent l'Église à la vérité. La première chose qu'on a vue la semaine passée, c'est en vérifiant leur enseignement par rapport à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à Jésus, ces gens-là? Et la plupart du temps, les faux docteurs ou les mouvements qui ne prêchent pas la vérité par rapport à l'Évangile, vous allez voir qu'ils jamais ils vont s'adresser à vous en parlant de Jésus-Christ en premier. Non, ils n'en parlent pas. Ils vont prendre un paquet d'autres affaires pour vous attirer, pour vous amadouer, pour vous montrer. Vous remarquerez, on en a nommé quelques-uns qu'on connaît mieux, les témoins de Jéhovah. Ils vont arriver à votre pas, ils ne parleront jamais de Jésus-Christ comme tel. Ils vont parler du sang, du nom de Dieu. Ils vont prendre un paquet d'affaires, mais ils ne vous parleront jamais de Jésus. Qui est ce gars-là? Es-tu Dieu? Es-tu homme? Ils n'en parlent pas. C'est plus loin, ça. C'est plus loin. Si tu vas à leur mouvement, là, ils vont faire de quoi là-dessus. Mais en partant, ils n'en parleront pas. Moi, j'ai parlé avec des mormons souvent. Jamais ils vont parler de Jésus en partant. Ils vont parler d'un paquet d'affaires, mais pas de Jésus. Et pour nous autres, c'est important de vérifier qu'est-ce que ces gens-là croient par rapport à Jésus. Qu'est-ce qu'ils disent face à cette personne-là? Et c'est souvent là, surtout dans les années 1850 jusqu'à 1925, tous les mouvements qui sont commencés ont renié la divinité de Jésus-Christ. Toute la gang. Tout le monde, Jéhovah, Mormon, les années 1850 jusqu'à 1925 à peu près. Ils appellent ça le siècle de la lumière. Ils ont été bien les ténèbres, mais c'est le siècle de la lumière. Et tous ces mouvements-là qui ont commencé ont rejeté Jésus-Christ. Soit qu'il était homme, soit qu'il était Dieu, soit qu'il était trinitaire, soit qu'il était égal. Ils ont tous rejeté ça. Ces mouvements-là qui ont commencé dans ces années-là. Et fait que nous autres, il faut vérifier tout de suite en partant. Hey, qu'est-ce que vous dites par rapport à Jésus? C'est qui ce Jésus-là pour vous autres? Okay, donc, parce que au verset 1, c'est marqué les faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, assireront sur eux une ruine soudaine. Donc, ils renient le maître. Ils ne vont pas toujours renier Jésus n'est pas existé, mais des choses par rapport à Jésus. Soit sa divinité, soit son humanité, soit ce qui était égal au Père, soit qui était un avec le Père, mais ils vont régner, Jésus-Christ. Donc, c'est important pour nous de vérifier ça. Ça, c'est la première chose qu'on a vu la semaine passée. Deuxième chose, c'est leur attitude face au péché. Quelle est leur attitude? Qu'est-ce que ces gens-là pensent du péché?
À quel verset, non?
Moi, je suis au verset 2, là. Chapitre 2, verset 2. Là, c'est la deuxième chose qu'on a vu la semaine passée. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Donc, le mot dérèglement.
Pas c'est, dans leur vie, immorale.
Immorale, c'est le mot. C'est le mot qui veut dire sont déréglés. Moralement, ce sont des gens déréglés. Et vous, si vous voulez voir avec moi aussi, vous pouvez descendre au verset 3. Cupidité, hein? Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille pas. Donc, c'est des gens qui sont cupides. Et dans le Nouveau Testament, chaque fois que vous allez voir faux prophète ou faux docteur, il y a toujours de l'argent collé après. L'argent, oui, ça veut dire cupide. Les cupides, c'est ceux qui veulent avoir, ils aiment l'argent, ils veulent avoir de l'argent. Ils le font. Puis les mouvements, qu'est-ce qu'on entend parler des faux mouvements? Ils sont toujours reprochés, ils sont toujours à vouloir de l'argent, tout vouloir d'argent, tout vouloir d'argent. C'est souvent, c'est entrelié entre eux autres. Ça. Et c'est vraiment une. J'ai déjà dit, mais ça, mais je me souviens de plusieurs années, je pense, c'était à Vitréville dans le temps. Il avait fait une émission américaine, c'était marqué si vous voulez devenir riche, partez-vous des églises baptistes. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent dans ces églises. C'était la mentalité qui était restée dans l'air. Les gens, il y a des grosses bâtisses, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. C'était plus aux États-Unis parce que ça fait plus longtemps, ça fait des générations qui sont là. Mais ils sont cupides. Regardez, descendez avec moi verset 14-15. Parce qu'on va voir ce chapitre-là de façon un petit peu spéciale. On va regarder ensemble différentes choses. Regardez verset 14 et 15. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies et ont le cœur exercé à la cupidité qui revient. Hein? Donc, verset 15, « Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aimait le salaire de l'iniquité. » Souvenez-vous pourquoi Balaam a tombé dans le péché? On lui a offert de l'argent, on lui a offert de la gloire humaine, on lui a offert des choses, et il a tombé dans le panneau, finalement. Donc, il dit de vérifier quelle attitude ils ont face au péché, ces gens-là. Pas... Regardez s'ils font des péchés. Tout le monde en fait. Mais quelle attitude ils ont envers le péché? Pas grave. Oh, il n'y a pas rien là. Oh, c'est pas si pire que ça. Oh, il n'y a plus de péché aujourd'hui. C'est pas si grave que ça. C'est pas des gens qu'on voit qui ont une lutte contre le péché. C'est plutôt des gens qui justifient leur péché plus que d'autres choses. Et on va voir que plus loin, que le chrétien, lui, c'est pas celui qui... ne fait pas de péché, mais c'est celui qui appelle le péché péché et qui le condamne et qui dit que c'est mal et qui va demander pardon et qui va le reconnaître comme étant péché et qui va prier pour avoir la victoire. Il y a une attitude de lutte face au péché et non pas une attitude de complaisance ou de dire « c'est pas si pire que ça ». Vous avez remarqué que beaucoup de mouvements religieux vont... vous avez entendu comme moi, je me souviens, il y a longtemps, nous autres, ça fait plusieurs années qu'on avait écrit une lettre, toutes les églises baptistes ensemble, on avait écrit une lettre. Je ne me souviens pas à quel ministère du gouvernement, quel palier du gouvernement, le gouvernement avait les églises unies. Non, pas au gouvernement, excusez. On avait écrit une lettre aux églises unies que nous, on était en désaccord avec le mariage des homosexuels. Ça fait bien longtemps en arrière. Et ils acceptaient l'homosexualité des autres, puis ils voulaient le mariage. Nous, les églises baptistes, à notre réunion en novembre, on avait signé une lettre, tout le monde, puis on avait envoyé ça aux États-Unis de dire, nous, on est en désaccord avec ce qu'on fait.
Ça va bien.
Oui. Ça fait au moins 20 ans, 15-20 ans. Les autres, c'était pas accepté le mariage, mais les autres étaient en faveur de l'homosexualité. Puis l'homosexualité n'était pas péché. C'était un non-monde de même, c'était pas si pire. Mon frère, mon jeune frère, qui est homosexuel, est allé dans une église, puis ils ont dit, t'es né comme ça, si tu veux. Accepte ça. Moi, on ne peut pas avoir le gros débat, t'es-tu au nom de monde de même ou pas. C'est pas ça qui est le plus important, c'est est-ce que c'est péché ou pas. Nous, au monde de même, on est tous au monde pécheur. Bon. Mais j'ai dit, la Bible a dit que c'est péché, tu devrais l'appeler péché, que tu sois nous au monde de même ou pas. Moi, je suis nous au monde pécheur. Ben, je suis responsable pareil. Je peux pas dire, ah, ben, c'est pas de ma faute, je suis au monde pécheur, Dieu peut pas m'en vouloir, je suis au monde pécheur. Mais non, c'est pécheur. Et, fait que, c'est, faut faire attention, là, des fois, l'attitude qu'ils ont va entraîner ces gens-là, la société à croire que l'Église maintenant est plus. Moi, ce qu'il a dit ça, des fois, j'ai entendu quelque chose, là, c'était la semaine dernière. L'Église allait évoluer maintenant. Là, il ne parlait pas d'Église baptiste, il parlait d'Église large. L'Église allait évoluer, maintenant, à comprendre mieux que ça, c'est correct, ça, c'est pas grave, puis d'un côté, c'est pas si pire, puis d'être homosexuel, c'est acceptable. T'sais, l'Église, elle a évolué. Mais quand on dit ça à l'Église, en tout cas, mais quand on dit ça à l'Église baptiste de Mont-Tremblay, on est dans le pétrin. On est dans le gros pétrin. On ne doit pas évoluer dans notre théologie. La vérité, c'est la vérité. C'est toujours la vérité. On peut évoluer dans le genre de musique qu'on va chanter, ça, c'est correct. Mais pas dans notre doctrine, pas dans notre croyance, dans ce sens-là. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Si vous voulez en savoir plus, vous pourrez regarder le CD pour l'écouter. Maintenant, ce soir, on va regarder, on va commencer le verset 10. Et ce n'est pas facile de comprendre cette partie-là. Une troisième raison, comment les reconnaître. Okay? Surtout ceux qui courent après la chair, ça, on vient de le voir, dans un désir d'impureté, de sexualité, ils méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. C'est pas facile à comprendre ça. Paul, si tu lis la tienne?
Il dit, il punira surtout ceux qui suivent le désir impur de leur propre nature et méprisent l'autorité de Dieu.
L'autre bout?
Les faux enseignants dont je vous ai parlé sont audacieux et arrogants. Ils n'ont pas de respect pour les êtres glorieux du ciel, mais ils les insultent.
C'est ça. Donc, il y a différentes façons de le voir, cette chose-là, mais ici, ce qu'on va regarder en premier lieu, là, dans la première partie du verset 6, c'est qu'ils ne sont pas soumis à l'autorité. Et ta Bible, Marc, ajoute l'autorité de Dieu. Hein,
c'est, ouais,
le mot Dieu n'est pas là, mais non. C'est sous-entendu.
Bon, les êtres glorieux
aussi du ouais.
Ciel.
Donc là, ça va être le deuxième côté. C'est, ils ont quelle attitude qu'ils ont envers les autres êtres? Mais là, on parle juste de Dieu, premièrement. Il dit, ils ne se soumettent pas à l'autorité de Dieu, ces êtres-là. Comment est-ce qu'on peut voir ça?
Ben, moi, une fois, ils ont fait une procession des homosexuels, puis il n'y a aucun respect pour l'autorité. Ils font ça en public, devant les anges, devant Dieu, devant le ciel, devant tout. T'sais. Il y en a un même qui est habillé en ange, en noir.
Ah ouais?
Ouais. Là, je dis, hey, ça se peut pas. Là, il y a un seul vraiment.
Il
est habillé par
les anges. Chaque année.
Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Là.
Ouais.
Mais c'est le péché. Ils s'en foutent. Ils risent de Dieu. Ils se moquent de l'autorité. Je l'avais vu, ça. Ils se moquent vraiment de l'autorité de Dieu. Même Dieu, les prennent, là, ils vont discuter. Hein.
Okay.
Je dis, attends, même Dieu, il ne fasse pas cette nuit.
Ceux-là sont plus. Moi, je dirais. Ils sont plus faciles à voir. Pour un chrétien, en tout cas, là.
Tu vois.
Mais les faux prophètes, les faux docteurs qui sont dans l'Église, ils ne s'habilleront pas en ange noir, parce qu'ils vont se faire botter derrière, ils vont sortir vite.
Ouais, c'est ça.
Mais comment est-ce qu'on peut voir que les gens qui sont dans l'Église, comment est-ce qu'on va reconnaître qu'ils ne sont pas soumis à l'autorité de Dieu? La façon que moi je pense, c'est regarder quelle attitude ces gens-là ont face à la Bible. Dans les mouvements religieux qui commencent à mettre en question la Bible. « Ah, la Bible, ça contient la parole de Dieu, mais c'est pas toute la parole de Dieu. » Ah, oh, il faut lire entre les lignes.
Ah, ouais.
Oh, mais c'est écrit pour un autre siècle que nous autres. Puis là, ils commencent à remettre en question la parole de Dieu comme autorité. Je suis allé dans une église aux États-Unis une fois, parce que je suivais un cours, une église baptiste, qui était là, parce qu'on pense à une église baptiste, là. Le gars a prêché, mais il n'a pas prêché la Bible. Il n'a jamais parlé de la Bible. Il a prêché. Il a prêché ce qu'on appelle un sermon moral. Mais ce n'était plus l'autorité de la Bible qui parlait. C'était plutôt. C'est pas bien vu, c'est pas acceptable dans la société, il faut faire le bien, puis la tolérance zéro par rapport à ça. Il n'y avait pas aucune autorité là-dedans. Là. Ils ne parlaient plus, ils ont mis de côté les Écritures, ces gens-là. C'est la façon de voir souvent les faux prophètes. Alors, ils vont emmener, moi, ce que vous allez voir dans les mouvements, ou ces gens-là qui vont emmener, ils vont emmener de parallèle avec la Bible d'autres livres. L'Église catholique, c'est quoi? T'as la Bible et la tradition de l'Église devient aussi forte que la Bible. OK? Comme un témoin de Jéhovah, mettons. Et si on lit le livre des témoins de Jéhovah, la tour de garde. Des Mormons, c'est le livre de Joseph Smith. Ouais, ouais. On a un petit livre avec eux autres qui ça, c'est, pour moi, c'est un mépris de l'autorité de Dieu. Tu n'as pas besoin d'un autre livre, c'est la Bible. Tu peux avoir un livre qui va t'aider à comprendre la Bible, mais c'est la Bible qui a le droit de tous les droits, le dernier mot, là. Donc, tu sais qu'on dit que ça, c'est mon point de vue. Mais quand je lis la Bible, je peux dire ça, c'est la vérité. Là. C'est mon point de vue, mon enseignement, c'est ma compréhension de la Bible. Mais quand je lis la Bible, tout le monde peut vous dire ça, c'est la vérité. Parce qu'on, et vraiment, regardez, c'est une bonne chose à faire de poser la question, qu'est-ce que vous pensez de la Bible? C'est quoi la Bible pour vous autres? On parle de ces gens-là qui sont dans l'Église, là, qui sont dans les églises, qui commenceraient à mettre en question ce qu'on dit, ce qu'on enseigne. Ben là, dans la Bible, toi, là, c'est comment tu vois ça, la Bible? C'est-tu la parole de Dieu, la Bible? C'est-tu inspiré, la Bible? C'est-tu inhérent, la Bible? Dans le sens que ça n'a aucune erreur, la Bible? Puis, vous regardez les mouvements religieux qu'on appelle aujourd'hui les mouvements libéraux, c'est qu'ils se sont tranquillement éloignés de la Bible, tranquillement. Finalement, ils vont finir par dire, oui, c'est la vérité, la Bible, mais il ne faut pas tout la prendre, il ne faut pas tout prendre trop à la lettre, là, tu sais, là. Ouais. Fait qu'ils commencent à...
Comme les prêtres.
Oui, c'est ça, oui. C'est vraiment qu'ils ils vont sournoisement mettre la Bible. Avez-vous déjà vu les livres, les revues? On en voit moins aujourd'hui.
La pure vérité.
La pure vérité.
Oui, oui.
Vous remarquerez, oh. Il parle de la Bible, mais il faut toujours un petit peu sur le côté. Hein. C'est Armstrong qui a participé.
Il y avait un pasteur qui nous avait dit, pourquoi dire la pure vérité quand la vérité, c'est la vérité?
C'est toujours pur. Mais c'est pas, si la vérité, c'est pur.
La vérité, le mot pur, elle est pure, la vérité. C'est pas vraiment la vérité. Il dit, mais il dit ça. C'est un monsieur Dick.
Ah, t'as connu monsieur Dick? Où t'as connu ça?
Dick qui avait parti les idées, j'ai plein de monnaies.
Ah ouais? Ah, c'est pas la même.
C'est pas la même.
C'est pas la même. Parce qu'on avait un monsieur Dick à Denville, qui s'appelait monsieur Dick. C'était un pasteur baptiste ce soir-là. Donc, il faut toujours faire attention. Vous allez voir leur autorité. Dieu dit, et souvent ils vont dire Dieu dit ça. Ouais, mais où est-ce qu'il est marqué dans la Bible? Là, ils ne l'ont pas dans la Bible. Il faut aller chercher ça ailleurs. Et là, moi je me dis, si tu vas chercher ailleurs, c'est parce que tu n'as pas confiance que la Bible te dit la vérité, puis qu'elle est complète en soi, puis ton salut.
C'est ce qu'ils font souvent, ils vont chercher des versets, tout ça. Essayer de lui faire dire ce que c'est qu'elle
veut, ils
vont aller sortir
un verset-là, ça va. Et souvent, c'est ça qu'ils vont dire, il faut en apprendre, mais il faut en laisser. Parce que là, c'est pas, faire attention. Et bon, il faut lire entre les lignes. Tu dis que dans ce temps-là, je dis, ouais, moi, entre les lignes, il n'y a rien entre les lignes. C'est pas, aller entre les lignes, mon chum, il n'y a rien entre les lignes. Tu lis les lignes, je n'ai plein mon capot pour comprendre les lignes. Entre les lignes, c'est encore bien plus dur. Donc, c'est une façon de reconnaître les faux docteurs. Une façon de plus. C'est pas la seule, mais c'est une autre façon.
Ils vont chercher des affaires comme non, comment tu vois, je vais ils disent, moi, je peux donner la date qu'Adam est né, puis Adam et Ève qui sont nés, ici 20 années, mettons, avant Jésus-Christ, puis là, une autre une année. Je dis, qu'est-ce que ça va faire de ma vie, ça? Mm. Mais comment peux-tu dire ça, tu sais?
Oui, puis de mettre ça égal avec. T'sais, de mettre ça égal avec ça. Puis souvent, il faut faire attention à tous ces gens qui vont arriver avec de la révélation, là, tu sais, là, de la révélation de plus. Là. Alors Dieu nous a montré. Moi, tu peux pas le faire, mais viens pas me mettre ça au même niveau que la Bible. La Bible, ça...
Moi, j'en ai eu dans l'église Pentecôte. Il dit, il y a un ange à côté de mon lit, puis j'ai pas mal avec. Puis t'es sérieux, il disait ça à tout le monde, lundi. Okay.
Moi, j'ai vu une personne me dire... Le Saint-Esprit m'a montré ça, peu importe ce que la Bible dit. Le Saint-Esprit m'a montré que c'est ça. Mm. Donc, là, lui, il se mettait au-dessus maintenant de la Bible. Le mouvement catholique, vous verrez, vous autres, toi, t'as pas été catholique, mais toi, t'es élu. L'Église catholique, elle le déclare, elle est au-dessus de la Bible. Elle est au-dessus de la Bible. Il le dit clairement. Parce qu'il dit, c'est l'Église qui a écrit la Bible. Donc, l'Église est au-dessus de la Bible. Alors, dit les apôtres. C'est une autre, c'est les chrétiens, dans le fond, mais c'est vrai, c'est tous des chrétiens qui ont écrit. Mais l'autre, il dit, donc on est au-dessus. C'est fort, là. C'est ce que tu. Là, moi, j'appelle ça injurier l'autorité de Dieu, parce que Dieu a écrit une lettre. C'est pas les êtres humains qui l'ont écrit, là. Si c'est ça la pensée humaine, c'est vrai, là, que. Ouais. C'est vrai que l'Église pourrait se mettre au-dessus. Mais c'est Dieu qui a écrit.
Ouais.
C'est ça que Jésus a dit, si on vous rejette, ben, il me rejette moi, là. S'il rejette la Bible, il me rejette moi, là. Donc, il faut faire attention à ces gens-là qui se promènent de même, puis qui, qui... Est-ce que vous êtes soumis à l'autorité de Dieu? Pour nous autres, la seule façon, c'est de voir qu'est-ce qu'ils pensent des Écritures en grande partie. Vous savez que Jésus a dit, quand il était sur la terre, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis? » Vous dites, oh, « Oui, Dieu dit ça, oh, oui, Dieu, on aime Dieu. » Dieu a dit ça, vous faites le contraire. Puis Jésus, c'était un des grands reproches qu'on fait aux Juifs. Pourtant, les Juifs mettaient un estrade, un pédestal. Pourtant, ils disent, vous ne faites pas ce que je dis. Donc, c'est une façon de voir qu'il méprise l'autorité de Dieu. Puis là, on a l'autre petit bout qui vient juste après. Quelle attitude qu'ils ont envers les êtres injurieux de la Bible? Les êtres célestes. Ils appellent ça les gloires. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles des jugements injurieux devant le Seigneur. C'est pas tout le monde qui voit pareil, là. Les gloires, il y en a qui... J'ai vu des chrétiens qui vont marquer que le mot gloire, ça rappelle les autorités gouvernementales. Ils n'ont pas de respect pour les autorités que Dieu a établies sur la terre. Donc,
c'est-à-dire les êtres célestes.
Oui, du tout, c'est marqué comme ça. D'autres chrétiens, ils marquent les autorités ecclésiastiques, les autorités dans l'Église. L'autre, ils vont marquer les bons anges, puis les autres vont marquer les mauvais anges. OK? Donc, dépendamment de quel chrétien va traduire, donner son interprétation un petit peu différente. Moi, j'ai choisi comme les êtres... céleste, mais mauvais. Parce qu'au verset 11, tandis que les anges, c'est comme, eux autres, ils injurent les gloires, tandis que les anges, eux autres, les bons anges, que je suppose, eux autres, ils injurent pas ces gens-là. Les bons anges ne portent pas de jugement injurieux contre les mauvais anges. Mais ces gens-là ont tendance à parler contre, ou mépriser, ou... voir comme étant banal de ces choses-là. Un peu comme tout à l'heure, ils se promènent avec un déguisé en noir, comme ils étaient Satan. Au lieu d'avoir un respect, là, pas un respect dans le sens comme un respect pour Dieu, mais.
Ouais,
je ne vois
pas
de joke avec ça. Ils vont rire, ils vont se moquer que ça n'existe pas ces affaires-là. Ils vont aller s'amuser. Comme moi, je dirais que c'est des gens qui vont pas. Avoir une espèce de respect craintif de ce monde mauvais-là. Mm-hmm. Tu sais, qui prennent ça pour étant c'est banal, c'est pas vrai, ou ben non, il y a des mouvements qui vont dire Satan, j'écoutais ça, Satan, c'est juste une autre marche dans la connaissance de l'être humain. C'est pas mauvais, c'est pas bien, c'est pas mauvais. C'est juste que c'est une autre façon de comprendre. Lui appelait ça une autre marche vers la connaissance ultime.
Quand là aussi, bon. Une fois, moi, j'ai monté en lien avec Satan, parce qu'on voit même juste de prendre un enfant, on voit tous nos chums là.
Ouais, c'est sûr.
C'est un peu le même, il y a un jeu d'une manière ou de l'autre. On s'en fout.
Il voit comme banal, parce que c'est intéressant qu'il dit que les anges n'injurent pas ces gens-là.
Il y a un moment donné que l'ange, je ne me rappelle pas c'est lequel, elle a dit que Dieu te reprenne. Il
n'y
a même pas. Ouais. Je
ne
me rappelle pas, c'est où, là?
C'était le corps de Moïse, hein, c'est ça?
Non. C'était quoi, là?
C'est
ce qu'elle a dit, là.
Qui
dit que Dieu te reprenne. Je sais, c'est de quoi tu parles, je ne souviens pas le texte.
Ouais,
je
sens la touché, moi, qu'elle avait
et
dit ça.
C'est comme si. Dieu va te reprendre. Moi, je ne te reprends pas, c'est pas à moi à faire ça.
Moi, c'est vrai.
C'est le mot réprimé qui est là. Hein?
Ou Jude. Peut-être Jude.
Jude.
Ah ouais, c'est Jude 1-9. C'est Moïse, c'est le disputeur du corps. Tu as bien raison. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, il lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement juré, mais il dit le Seigneur va te reprendre. C'est le Seigneur qui va le faire.
Ouais.
Donc, les autres, même, ils n'osent pas porter un jugement injurieux, ils n'osent pas condamner ces choses-là.
Tu n'es pas aidé, moi, dans mon mot, je sais, mais là, il dit, le Seigneur va se
l'arrêter. Oui, c'est ça, il aurait pu dire, moi. Les autres,
on est plus fort que toi.
Ou, moi, ça pourrait être. Tout ce mouvement-là, en tout cas, moi, en tout cas, c'est mon opinion personnelle, ce mouvement par rapport à chasser le démon. Là. Mmh. Les gens qui pensent qu'ils sont plus forts que les autres, qui vont dire « Sors de là, Satan! » Il faut faire attention avec ces gens-là qui se croient comme...
Ils n'ont pas peur, ils injurent les droits, puis on va dire ils niaisent avec ça. Tandis que les anges, ils n'osent même pas.
Ils disent, tiens, on va te reprendre. C'est comme s'ils voient que les autres sont assez forts pour.
Au nom de Jésus, ils se mettent la main soit sur ton épaule ou sur ton front. Ils disent, oh, ta main sur moi. Hein. Mm-hmm. Moi, il y a du monde qui dit, viens, on va prier ensemble. Non, je voulais prier, Donc, il dit que Dieu chasse tous les démons qui sont ici. Voyons donc, c'est une gang de chrétiens, il ne peut pas avoir des démons là.
Ça, il faut faire attention avec tout ce toucher-là, de toucher ceux qui s'infiltrent là-dedans et commencent à vouloir contrôler le monde mauvais. Puis que qui qu'on est, nous autres,
pour faire ça. Ils passent pour d'autres personnages qui sont dans le fond. Ouais. D'autres, là, ils se permettent d'imposer main à n'importe qui. Ils ne veulent pas, ils se prennent pour quelqu'un d'autre là, à ce moment-là. T'sais. Parce qu'il y a une puissance.
Lui. Je dirais que c'est un manque, comme on a vu tout à l'heure, c'est un manque de connaissance.
Bon, oui, c'est ça.
Qu'est-ce que c'est? Parce que la plupart des gens, vous savez comme moi, ils voient dans la Bible qu'il y en a qui le font. Fait qu'on pourrait dire, s'ils l'ont fait, on est capable de le faire.
Ouais.
Ça, il faut faire attention. Au moins, s'ils le font, ceux qui le font avec un respect. Ouais. Tu sais, quelque chose. Parce qu'il y en a qui l'ont déjà fait. Mais je dis, il faut le faire avec un respect, non pas avec une espèce d'arrogance. Mm-hmm. Parce qu'on dit, hein, ils parlent avec arrogance. Là.
C'est ça.
Donc, il faut faire attention avec ces gens-là qui...
L'imposition des mains, elle se faisait pour certaines affaires, pour les gens qui allaient comme, mettons, Timothée, là, qui se mettaient dans l'enseignement. Alors, il était approuvé des anciens des églises.
Mais demandez, si vous avez du temps, moi j'avais fait des études, une secousse à Victor Hébé, puis ça m'a venu, puis ils se sont déposés les mains. Il y avait une coutume chez les Juifs, par rapport à l'imposition des mains, ou lever les mains, ou tout ça. Il y avait une culture dans leur chose. Et nous, on ne le comprend pas parce qu'on ne vit pas cette culture-là. Il faut faire attention de dire... Les autres, c'était leur façon de transmettre l'autorité. Quand Moïse a mis les mains sur Aaron, ou cela, c'était le supérieur envers l'inférieur. Il transmettait une autorité comme ça. Aujourd'hui, on fait plus ça. On va donner une main, on va l'écrire, on va transmettre l'autorité d'une autre façon.
Je sais que les enfants aussi, quand ils me donnaient le...
Oui, il y avait tout ça. Un peu comme nos parents voulaient faire la bénédiction de Noël, du jour de l'an. Tu sais, souvent, il y avait des cultures qui, pour nous autres, ça ne faisait pas de sens, parce que ça venait d'ailleurs. Ça. Dans notre culture, à nous, quand on veut transmettre l'autorité à quelqu'un, on a notre façon de le faire dans notre culture. Donc, il faut faire attention de ne pas prendre une culture de l'année chez nous. C'est le principe, il est là. Donc, il faut faire attention de faire ça. Donc, les autres, le mot que je trouve le plus important, là, c'est, verset 10, ils sont audacieux et arrogants, ces gens-là, face au monde céleste. Ils sont arrogants. Et donc, il faut faire attention. Puis, ils méprisent tout ce qui est au ciel, en fond. Dieu, ils méprisent tout ça. Il faut faire attention. C'est une façon de reconnaître comment ils voient le monde spirituel, le monde céleste. Comment est-ce qu'ils font ça avec ça? Et le verset 21, qui va être une dernière façon de le voir. Les autres versets, on les a vus la semaine passée, donc vous pourrez les regarder. Puis on va en avoir d'autres la semaine prochaine aussi dans ces versets-là. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il est arrivé, ce qui est dit le proverbe, vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Moi, j'ai marqué, regardons qu'est-ce qu'il enseigne par rapport au salut. Après-midi, j'ai reçu une lettre d'un ami d'une autre église et il me parlait d'un ami que nous on connaît, d'un autre homme qu'on connaît, qui tout d'un coup a décidé, c'est fini. Il dit qu'il croit en Dieu, mais qu'il ne croit plus au salut, puis c'était plus comme ci, puis comme ça. Lui, il ne s'est pas mis enseigné, il s'est pas devenu un faux enseignant, puis il a quitté l'église. Mais il y a des gens qui, d'autres, vont rester dans l'église, mais ils vont tranquillement se détourner, comme les plutôt aux Hébreux. Les Hébreux, c'est tout ça, tout le long. Des gens qui ont commencé avec de la vérité, puis tout d'un coup, ils s'éloignent. Ouais, ben on est sauvés comme ça, mais là, ils vont rajouter quelque chose, ils vont enlever quelque chose. Oui, on est sauvés, mais il faut faire de quoi? C'est pire, ça, là, que ceux qui sont carrément en con, tu sais, qui vont prêcher vraiment un salut par grâce, par les œuvres. C'est pire, c'est ceux qui disent que c'est juste une barre, t'es de la misère à avoir. Mais tranquillement, l'Église catholique est venue en grande partie aujourd'hui, elle dit, ben, tout le monde va aller au ciel, finalement. C'est juste, il faut évaluer ce que j'ai marqué, évaluant l'enseignement qu'il donne par rapport au sein.
Ouais, c'est ça, comme moi, j'ai tourné dans mes églises, dans les premiers ministres, ou quoi que ce soit, ou baptiste, les gens qui étaient même des enseignants, puis du jour au lendemain, ils ont embarqué des choses, ils ont enseigné des choses qui n'étaient pas vraies. Moi, je m'enseigne un pasteur, je n'aimerais pas le nom, mais en tout cas, entre autres, il avait commencé, c'était ça l'été, je disais ça, ben, vous lisez ça chez vous, faites une étude là-dessus, puis répondez aux questions. Là, j'ai commencé à lire. Là, j'ai dit, ça ne marche pas. Là, on voulait regarder dans notre passé pour voir si c'était des choses qu'on avait oubliées de confesser à Dieu. Là, il a parti sa doctrine, là, tranquillement.
Mm-hmm.
Puis là, c'est pour ça qu'on n'avait pas de force présentement, parce qu'on avait oublié de confesser des choses.
Mm-hmm.
Là, j'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Puis c'était très compliqué. Hein? Mm-hmm. Voilà, tu pries, peut-être que tu es loin de Satan, qui est là, qui veut essayer de t'attaquer, qui ne te permet pas de regarder comme il faut ton passé pour le confesser à Jésus.
Mm-hmm.
Là, c'est quoi cette affaire-là? Pourtant, c'est un bon pasteur, il était reconnu partout, il était nommé pasteur par les églises. Je t'ai rendu, lui, là. Puis là, par après, il est parti son église à lui. Mm-hmm. Ils l'ont mis dehors.
Mm-hmm.
Moi, il m'avait dit, moi, j'ai un salaire de 33 000, je ne veux pas perdre ça, puis je ne veux pas prendre des décisions pour vouloir t'aider, puis après ça, ça va me tomber sur le nez, je n'ai pas le temps de ma job, puis j'aime autant pas. Je t'ai rendu. Mais tu vois, mais, tranquillement, là. Là, ben, c'était vraiment clair. Après ça, il a laissé rentrer, à cause que le local coûtait quand même assez cher, la location. C'est leur église, ils l'ont construit, mais elle coûtait cher quand même, les paiements. Puis, ils ont laissé rentrer une église pentecôtiste. Mais ça ne nous touche pas, ils vont avoir leur réunion après, les autres on l'a avant, les autres après. Fait que là, les pentecôtistes s'étaient installés là. Quand on finissait, ils arrivaient. Là, il y avait des contacts entre les pentecôtistes. Puis là, à un moment donné,
Tu sais qu'il faut faire attention de voir, de bien évaluer ce qu'on appelle la doctrine du salut. Qu'est-ce que ces gens-là pensent de l'être humain, mettons? L'être humain est une vertu au monde pécheur. L'être humain, de vérifier ça, de vérifier la conception qu'ils ont du péché. C'est quoi le péché? Souvenez-vous, une fois, je te parlais avec des gens, puis je dis, qu'est-ce que le péché a fait dans l'être humain dans Genèse chapitre 3? Quand Dieu a dit, là, si tu manges de l'arbre, tu mourras. C'était quoi les conséquences? Qu'est-ce qui est arrivé dans l'être humain à ce moment-là? Et là, il y avait des... Oups, là, tu voyais une petite tendance qui s'éloignait sur le bord. Fait que les années, c'est là, finissent par débarquer. Parce qu'il faut vraiment vérifier. Parce que le salut, c'est comment avoir le pardon des péchés. Donc, il faut que tu connaisses c'est quoi le péché, comment c'est. Donc, toutes ces choses-là, qu'est-ce que ces gens-là... Là, ce que je vois présentement dans nos églises évangéliques larges, là, c'est la question par rapport à la repentance qui est là, qui est moins utilisée, moins prêchée, moins...
Ah ben oui, c'est le monde impossible.
De moins en moins. Puis j'ai écouté quelques émissions dernièrement d'un mouvement, puis là, jamais en parlait. Pourtant, c'était prêché aux inconvertis, puis jamais ils parlent de repentance. Hein? Je me dis, c'est la tendance générale. Je ne dis pas qu'il ne croit pas. Parce que si je vais demander qu'on soit repentant, je serais qu'il va dire oui. Mais pourquoi on ne la prêche plus? Pourquoi on ne la prêche plus aux inconvertis? Quand la parole de Dieu nous dit qu'on doit prêcher la repentance et le pardon des péchés en Jésus-Christ. Donc, il y a cette tendance-là. Puis, un autre point, des fois, moi j'appelle, c'est la conception du salut qui est, on appelle ça, moi je dis un mot, un anthropocentrique. C'est que le salut, c'est pour l'être humain. Quand la compréhension de l'Évangile, c'est le salut, c'est pour amener de la gloire à Dieu. C'est pas pour nous amener à avoir une vie facile, c'est pour amener que nous, on va servir Dieu et le glorifier. Et ça, on n'en parle plus. On n'en parle plus. C'est, si tu acceptes alors Jésus, tu vas aller au ciel, ça va, la vie va être plus facile, puis Dieu va t'aider. Là, il y a l'extrême healthy and wealthy, là, l'extrême à ce bout-là. Il m'a appelé, Joseph, il m'a appelé, c'était il y a deux semaines. Puis, il y avait quelqu'un qui avait parlé de ça, de healthy and wealthy, puis tout ça. Puis, il dit que c'est un chrétien, il n'a pas dit que c'était moi je vois, c'est un chrétien qui m'a une chrétienne qui m'a parlé que si j'étais vraiment un croyant, que Dieu me donnerait de la richesse et de la santé. C'est là, pourtant, ils vont dire qu'ils croient en Jésus, ils partent sur un bord. Là, c'est quoi là? Le salut? Puis qu'est-ce que le salut fait en moi après? C'est pas juste comment je peux l'avoir, mais c'est quoi le résultat du salut? C'est-tu juste sauver ma voiture. Mais oh, non, il y a des résultats là, dans notre vie de tous les jours. Là.
Ouais.
Donc, il faut vraiment s'arrêter pour dire qu'est-ce que ces gens-là pensent du salut en Jésus-Christ. Puis, qu'est-ce que c'est quoi le salut?
C'est important dans le bonheur, parce que moi, je parle pour moi-même.
Mm.
C'est ça qui a fait que j'ai été touché, que j'ai pleuré. Je me suis vu méchant.
Mm-hmm.
J'ai vu que le monde entier était méchant.
Mm-hmm.
J'ai vu que les gens étaient méchants sur la planète.
Mm-hmm.
Dans un journal, c'était écrit qu'il avait trouvé le corps de deux personnes à Saint-Eustache, c'était ma ville, qui avait été brûlé, puis torturé, puis ils avaient tué. Là, je dis, hey, le monde est méchant. Mais moi, je me voyais méchant aussi. Là.
Mm-hmm.
Juste le monde, tu sais. Mm-hmm. Ça donnait de même là, que je voyais ça dans le journal, mais ça donnait pas de même. C'est l'Esprit de Dieu qui a permis ça. Mm-hmm. Ce journal-là, que c'était écrit là,
mm-hmm.
que pour que je le voie, elles sont méchantes. Là,
mm-hmm.
Ils vont tuer, puis ça ne les dérange pas. Puis je suis méchant aussi, tu sais, là. Tu arrives à la repentance, là, puis ça s'est fait là, graduellement, mais dans la même journée, le soir, j'ai accepté le Seigneur, tu sais.
Mm-hmm.
Mais c'était quand il a prêché, il fallait se repentir. Hein,
mm-hmm.
Il dit, sinon, on va rester ici. Hein. Quand Jésus est venu chercher son église, c'est bien de valeur, si tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie, tu restes ici. Puis, tu ne seras pas avec le peuple de Dieu. Puis, oh, là, moi, je vais être avec le peuple de Dieu, tu sais. C'était prêché, ça.
Mm-hmm.
Tu l'entends tout le monde.
Non, aujourd'hui, c'est plus. On entend des fois dire a cheap grace, ou on entend dire c'est un évangile facile. Puis aujourd'hui, à cause que. Quand il n'y a plus de persécution forte, les gens. C'est plus facile de dire oui à l'évangile parce qu'il n'y a pas de conséquences directes. Quand, là, X années, ou ça se peut se faire encore aujourd'hui dans certaines places, si tu deviens un chrétien, tu deviens chrétien, il y a des conséquences directes dans ta famille. Ça peut être les persécutions, ça peut être la mort, ça peut être la prison. Donc, les gens, ils pensent deux fois avant de dire « je crois ». Aujourd'hui, quand tu dis, tu arrives dans une arena de 50 000 personnes, puis je dis « mais tu dois accepter Jésus, puis avoir une vie meilleure, avancer, il peut y en avoir 3 000 qui avancent ». Mais s'ils pensaient que dès qu'on sort de l'aréna, on peut se faire tuer, peut-être qu'il y en a moins qui descendaient les marches. Donc, on a mis un évangile facile, et ce n'est pas tout à fait toujours la meilleure façon de le faire. Donc, il faut faire attention que... moi, une fois, je me souviens, on était dans une église, puis moi, j'étais responsable de m'occuper de ceux qui avançaient en avant, après l'appel. Puis je m'étais dit, si ces gens-là n'ont pas entendu rien d'autre, de ce qu'ils ont entendu ici aujourd'hui, là. C'est dans le sens qu'ils n'ont pas entendu l'évangile par d'autres personnes avant. Puis, tout ce qu'ils ont entendu, c'est ce qui a été dit ici aujourd'hui. C'est pas vrai, ils ne sont pas sauvés. Dans ma tête, je me suis dit, ils ne sont pas sauvés. Ça se peut pas. Ils n'ont pas entendu tout l'évangile. Ils ont entendu juste des bouts. Puis c'était le fait est fait. On est allé les visiter chez eux, puis ils ne voulaient plus rien savoir de nous autres, puis ils n'étaient pas intéressés. Puis, mais pourtant, ils avaient tout avancé en avant. Mais ils ont avancé à ce qu'ils ont entendu. Mais si tu n'as pas tout donné, comme la repentance, la foi, mais ces gens-là ont dit, ouais, c'est vrai, bon, c'est vrai, je vais aller au ciel, puis bon, mais ils sont pas prêts à abandonner leur vie, pas prêts à abandonner le péché dans leur vie. Juste tout ce qu'ils veulent, c'est aller au ciel, mais qu'ils meurent. Donc, il faut faire attention que quand on prêche, ça veut dire qu'on peut tout prêcher en même temps, mais dans l'ensemble de ce qu'on dit, on doit prêcher la vérité. Tu sais, dans l'ensemble.
Ouais, puis tout était là ce soir-là, parce que le gars qui m'a fait accepter le Seigneur, c'est, je sais pas si tu le connais, Jean Théorie. Là, il m'a montré les quatre voies spirituelles avec le petit livre, la chaise,
mm-hmm.
que Dieu était hors de ma vie, puis c'est moi qui renais, puis c'est moi qui ai toujours conduit ma vie, puis que là, j'ai réalisé que j'avais tout fait un échec
mm-hmm.
de ma vie.
Mm-hmm.
Que là, c'est maintenant, c'est Dieu qui va venir te conduire.
C'est sur
toi. Est-ce que tu veux que Dieu il va conduire ta vie maintenant?
Mm-hmm.
Oh oui, j'aimerais bien mieux c'est lui, tu sais, c'est mm-hmm. bon. Fait que c'était tout.
Tout est à fais toujours attention. Quand ces gens-là qui viennent des églises, parce que là, ce qu'on parle des faux docteurs, qu'est-ce qu'ils pensent du salut? On a vu qu'est-ce qu'ils pensent de Jésus, quelle attitude qu'ils ont face au péché, quelle attitude qu'ils ont face au monde spirituel, quelle attitude qu'ils ont face à la Bible, là, quelle attitude qu'ils ont face au salut. Il faut évaluer ces choses-là. Ça peut prendre un mois, deux mois, six mois, un an, mais il faut juste évaluer et dire, hey, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Parce que, plus ou moins long terme, ils vont s'éloigner de ces vérités-là. Et la preuve est faite, depuis 2000 ans, dans les églises, c'est ça qui arrive. Là, qui vont prêcher, comme avec l'église catholique, mettons, Il croit que Jésus est Dieu, il croit qu'il a créé le monde, il croit que c'est la Trinité, Jésus est mort, il est ressuscité. Ils vont tout dire ça. Mais là, ils vont déroger sur le côté du salut. Des fois, les gens vont prêcher un salut qui semble au nom, mais ils vont déroger par rapport à Jésus de la Trinité. Et Jésus n'est pas Dieu. Donc, il faut vérifier l'ensemble des choses pour arriver à comprendre que est-ce que tout ça, c'est là ou non pas. Si c'est pas là, on ne peut pas embarquer avec ça. On ne peut pas embarquer avec ça. Donc, c'est pas que l'apôtre Pierre mentionne toutes ces choses-là, parce qu'on va voir la semaine prochaine que ceux qui vont suivre ces gens-là, qu'est-ce qui va lui arriver? Parce qu'il va lui arriver la même chose qui va arriver à ces gens-là. Hein? Si moi, en tant que race humaine, on a décidé de suivre Satan dans le paradis, mais qu'est-ce qui va nous arriver? La même chose que Satan, si on le suit. Et si on suit les faux docteurs, il va nous arriver la même chose qui va arriver aux faux docteurs. Et on va voir ça la semaine prochaine, parce que l'apôtre Pierre, il m'en garde. Si vous allez avec ces gens-là, vous voyez ce qui va vous arriver. Hein?